France Culture.
C'est le journal de la rédaction, journal présenté par Julie Paco. Bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour à tous. Près d'une semaine après le début de violents affrontements intercommunautaires dans le sud de la Syrie, le président syrien annonce un cessez-le-feu immédiat avec Israël. Ahmad al-Shara s'engage à protéger les minorités et annonce le déploiement des forces de sécurité syriennes à Souaida, où les affrontements persistent. Des affrontements également près d'un hôtel accueillant des demandeurs d'asile près de Londres, où l'extrême droite tente d'instrumentaliser la mise en examen d'un demandeur d'asile accusé d'agression sexuelle. Nous irons également à Tokyo où les Japonais ne tolèrent plus la présence des étrangers résidents comme touristes. Les manifestations se multiplient, tout comme les discours xénophobes. C'est une pétition qui bat des records, celle réclamant l'abrogation de la loi du plomb. Plus de 400 000 personnes soutiennent cette initiative lancée par une jeune étudiante. Enfin, nous reviendrons sur les fermetures de plages en Bretagne en raison de l'échouage d'algues vertes, un phénomène qui s'accentue cette année et face auquel l'association Eau et Rivières de Bretagne appelle l'agriculture à faire sa mue environnementale. Un cessez-le-feu immédiat dans la province de Souaida, c'est ce qu'annonce la présidence syrienne aujourd'hui. Un accord a été trouvé hier soir avec Israël sous l'égide des États-Unis, deux jours après des bombardements israéliens au nom de la protection des Druzes. Depuis une semaine, les violences intercommunautaires entre les combattants tribaux proches du pouvoir syrien et les groupes Druzes ont fait plus de 700 morts dans cette province du sud de la Syrie. Et malgré l'accord de cessez-le-feu, la situation sur place reste très incertaine. Alors le pouvoir d'Ahmad al-Shara annonce l'envoi de ses forces à Souaida. Les explications d'Anand Loher.
La présidence syrienne a appelé toutes les parties à respecter un cessez-le-feu immédiat et annoncé que ses forces avaient commencé à se déployer à Souaida dans le but, je cite, de protéger les civils et de mettre un terme au chaos. Pourtant, des affrontements sporadiques ont encore été signalés ce matin dans la ville. En annonçant un cessez-le-feu, l'émissaire américain pour la Syrie, Tom Barak, a appelé les Druzes, les Bédouins et les Sunnites à déposer les armes et à construire une identité syrienne nouvelle et unie. Or, c'est précisément ce qui est mis en question, la capacité des autorités syriennes à contrôler les différentes factions armées et à éviter l'implosion le long des fractures communautaires. La question s'était déjà posée en mars quand 1700 personnes, en grande partie de la communauté alaouite, avaient été tuées. Or aujourd'hui, 7 mois après l'arrivée au pouvoir d'Ahmad al-Shara, ce sont les mêmes déchaînements de violence, les mêmes exactions de part et d'autre qui ne font qu'alimenter des rancœurs et renforcer la crainte que les minorités en Syrie ne sont pas protégées. Situation d'autant plus incertaine que cette fois le voisin israélien s'est impliqué directement en se posant en défenseur des Druzes et en intervenant militairement, notamment en frappant Damas. Israël, qui réclame une démilitarisation du sud de la Syrie, s'était jusque-là opposé à la présence des forces gouvernementales syriennes dans la région de Souaida. L'État hébreu craint en particulier la présence de combattants islamistes près de sa frontière nord, le long du plateau du Golan occupé par Israël.
Autre accord de cessez-le-feu conclu aujourd'hui entre la République démocratique du Congo et le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Un accord signé au terme de 3 mois de discussions au Qatar. Les parties s'engagent à respecter leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu permanent, indique la déclaration saluée par l'Union africaine, qui y voit une étape majeure dans les efforts déployés pour instaurer une paix durable dans l'est de la RDC. Là où le M23 s'est emparé de vastes zones riches en minerais lors d'une offensive éclair en janvier dernier, cet accord de cessez-le-feu fait suite à celui signé par son allié rwandais le mois dernier à Washington. Au moins 26 Palestiniens tués et plus de 100 blessés ce matin par des tirs israéliens. Près de 2 centres d'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza. C'est ce qu'affirme la défense civile de Gaza. D'après l'ONU, 875 personnes ont été tuées en tentant de se procurer de la nourriture depuis fin mai, dont 674 à proximité des sites de la GHF, la Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par Israël et les États-Unis. Des fourgons pris d'assaut et 8 policiers blessés lors d'émeutes dans une petite ville dans la banlieue de Londres. Cela s'est passé à Epping jeudi soir. Des heurts ont éclaté près d'un hôtel connu pour accueillir des demandeurs d'asile. Cible ces derniers jours de plusieurs manifestations après la mise en examen d'un demandeur d'asile. Des manifestations initiées par plusieurs figures d'extrême droite, Laura Calmus.
Dans la petite ville d'Epping, à 1 heure de Londres, la nuit de jeudi a viré à l'émeute. Le bel hôtel qui accueille une centaine de demandeurs d'asile, des dizaines de manifestants souvent masqués, s'en sont violemment pris aux forces de l'ordre. 8 policiers blessés, 3 véhicules endommagés et des vidéos qui circulent en boucle sur les réseaux sociaux. On y voit des hommes escalader des fourgons et lancer des projectiles. Stuart Hooper, responsable de la police de l'Essex.
Nous faciliterons toujours les manifestations pacifiques. Nous veillerons aussi toujours à ce que la voix de notre communauté soit entendue. En revanche, nous ne tolérerons pas les actes de violence aléatoires que nous avons vus la nuit dernière.
À l'origine de cette flambée de violence, la mise en examen d'un Éthiopien de 38 ans accusé d'agression sexuelle. La victime présumée est une adolescente qui vit à Epping. Lors de l'audience, il a été confirmé que l'homme était récemment arrivé au Royaume-Uni en traversant la Manche en bateau. Depuis, les tensions se sont intensifiées autour du Bel Hôtel qui héberge des demandeurs d'asile depuis plusieurs années. L'affaire fait écho à d'autres violences anti-immigration survenues l'an dernier. Après le meurtre de trois fillettes à Southport, à l'époque, plusieurs hôtels hébergeant des demandeurs d'asile avaient été pris pour cible.
Laura Calmus, correspondante de France Culture à Londres. Tandis qu'au Japon, le rejet des étrangers s'exprime de manière de plus en plus décomplexée dans l'espace public. Alors que le pays accueille des touristes par dizaines de millions chaque année et que les résidents étrangers représentent désormais près de 3% de la population, les non-japonais sont devenus la cible en quelques années des citoyens japonais qui disent craindre pour leur sécurité et la survie de leur nation. Reportage à Tokyo de Karine Nishimura.
Les Japonais d'abord hurlent sur une place publique de Tokyo cette candidate aux élections sénatoriales du 20 juillet. La tendance marre des étrangers qui ne respectent rien et profitent de la générosité du Japon monte depuis des mois sur les réseaux sociaux. Pour une partie croissante de la population japonaise, il y a sur l'archipel trop de résidents non japonais, trop de touristes étrangers. La trentenaire Akiko le ressent ainsi.
Les Chinois qui vivent dans mon immeuble déposent leurs ordures encombrantes à même le sol, sans appeler les services compétents ni payer la taxe de ramassage. Je ne veux pas que ce genre d'étrangers perturbateurs viennent au Japon. Il y a de moins en moins de naissances de bébés japonais, mais un nombre croissant d'étrangers viennent ici. Le Japon risque de ne plus être le Japon des Japonais.
Ce sentiment d'invasion alimente les discours politiques. Le jeune parti Senseto en a fait son cheval de bataille et gagne en popularité. Son président, Soe Kamiya.
Notre slogan, c'est les Japonais d'abord. Nous ne voulons pas des immigrés qui s'installent pour remplacer des Japonais, mais seulement accueillir des travailleurs étrangers à titre temporaire.
Et face à ce succès nationaliste, les autres partis de droite embrayent sur le même thème, désormais appelé le problème des étrangers.
Des dizaines de migrants vénézuéliens libérés d'une prison de haute sécurité au Salvador. Ils étaient au moins 252 à avoir été envoyés par les États-Unis dans cette méga prison construite par le président salvadorien dans le cadre de sa guerre contre les gangs. Des migrants vénézuéliens expulsés donc par Washington ces derniers mois au nom d'une loi de 1798 sur les ennemis de l'étranger et accusant ces migrants sans preuve ni procès d'appartenir aux gangs vénézuéliens des Aragoas. Des détentions violant les droits humains d'après les associations de défense des droits. En contrepartie de leur libération, le Venezuela a libéré plusieurs prisonniers, dont un franco-américain de 37 ans, détenu depuis le mois de janvier par Caracas. 400 000 signatures recueillies en à peine 9 jours. La pétition demandant l'abrogation de la loi du plomb, lancée le 10 juillet et déposée sur la plateforme de pétition de l'Assemblée nationale, connaît un franc succès. Adopté le 8 juillet dernier au Parlement, le texte de loi prévoit notamment la réintroduction, à titre dérogatoire et sous condition, de l'acétamipride, pesticide de la famille des néonicotinoïdes, interdit en France mais autorisé en Europe. Une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire déplore la pétition. Bonjour Éléonore Claude.
Bonjour Julie Paco.
Alors derrière cette initiative, une étudiante de 23 ans, Éléonore Pattery.
Oui, Éléonore Pattery est étudiante en master qualité, sécurité, environnement et responsabilité sociétale des entreprises. Ces dernières heures, sa pétition non à la loi du plomb pour la santé, la sécurité, l'intelligence collective n'en finit pas d'engranger des signatures. En une matinée, elle est passée de 300 000 à 400 000. La jeune femme écrit « La loi du plomb est une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire. Elle représente une attaque frontale contre la santé publique, la biodiversité, la cohérence des politiques climatiques, la sécurité alimentaire et le bon sens. » Sur son compte LinkedIn, Éléonore Pattery précise n'être affiliée à aucun parti. Son interpellation touche notamment les plus jeunes. Sur les réseaux comme Instagram ou TikTok, les appels au vote de la pétition se multiplient. C'est par exemple grâce à des relais militants écologistes comme Célia Poncelin et Thomas Wagner que les signatures ont explosé. Une initiative citoyenne que Nadine Loverja, présidente de l'association Génération Future, saluait ce matin au micro de France Info.
C'est très surprenant de voir que cette pétition a pris autant d'ampleur, mais on est ravis qu'une jeune femme très investie ait déposé cette pétition. Il y a peu de pétitions qui réussissent à vraiment franchir des caps assez importants. Et celle-ci, elle a pris une ampleur très rapide. Ça témoigne, je pense, en effet, de l'agacement généralisé de la population contre cette proposition de loi et contre notamment cette réintroduction de néonicotinoïdes, ces insecticides tueurs d'abeilles, dont tout le monde dit qu'ils sont un problème pour la santé et l'environnement. En fait, cette pétition, elle est la traduction d'une colère qui n'a fait que monter depuis des mois. Et cette mobilisation qui a pris cette ampleur, elle s'est traduite par cette pétition qui a une fusée. Là, je pense qu'on va atteindre les 500 000, d'ailleurs, assez prochainement.
Ce nombre est capital, il pourrait pousser les présidents de l'Assemblée nationale à organiser un débat en séance publique. Et c'est bel et bien l'objectif de l'initiative citoyenne lancée par Éléonore Patéry.
Éléonore Claude pour France Culture. Et cette loi du plomb est donc très contestée par les associations de protection de l'environnement, à la star de l'association Eau et Rivières de Bretagne, association qui lutte depuis des années contre le phénomène des algues vertes sur le littoral breton et selon qui cette loi du plomb risque d'affaiblir encore un peu plus le contrôle de l'industrie de l'élevage, industrie responsable de la pollution au nitrate dont se nourrissent les algues vertes. Chaque année, plusieurs plages bretonnes se retrouvent ainsi interdites d'accès en raison d'échouages massifs d'algues vertes. C'est le cas dernièrement de la plage de Saint-Guimond dans les Côtes d'Armor. Arnaud Pugery, porte-parole de l'association Eau et Rivières de Bretagne, regrette donc le manque de continuité dans la lutte contre la prolifération d'algues vertes.
On a obtenu des avancées significatives qui malheureusement se sont arrêtées il y a une dizaine d'années parce que dès qu'on a commencé à identifier des succès sur cette courbe des nitrates, eh bien, l'agriculture, le monde agricole, et notamment le monde agricole de l'agriculture intensive, n'a eu de cesse que de demander des assouplissements à la réglementation notamment. Des assouplissements qu'il a obtenus et qui, de notre point de vue, ont mis fin à, finalement à cette belle décroissance de la courbe des nitrates. Et depuis 2015, on est sur une courbe qui est stabilisée à un niveau qui est de toute façon trop élevé du point de vue écologique pour voir les marées vertes ne pas se manifester. Donc nous, on appelle de nos voeux à une reprise du travail, notamment du monde agricole sur la question des nitrates, et en tout cas de sortir d'une sorte de déni qu'on entend depuis une dizaine d'années, qui consiste à dire que la question, et là je vais citer des propos entendus par des professionnels syndicalistes agricoles, que le problème des nitrates serait derrière nous. Ben non, pendant des années, en Bretagne, les pouvoirs publics, et sous influence du syndicalisme majoritaire agricole, nous ont dit « l'action volontariste suffira ». Et malheureusement, non. C'est-à-dire qu'il aura fallu tout ce temps que souvent les associations jouant presque le rôle de procureur de l'environnement, enfin de la République, viennent rappeler au pouvoir public qu'ils avaient des devoirs, des engagements européens de mettre en place de la réglementation. Et en fait, quand on a ce binôme volet incitatif et rattrapage des mauvais élèves, on va dire, par la réglementation, eh bien, on a des résultats. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est réussir à redonner un cap et des moyens d'y aller. Et là, la question de la manière dont on utilise l'argent de la PAC, elle est centrale. On utilise mal l'argent public de la PAC et la Cour des comptes l'a dit en 2021 quand elle s'est penchée sur la question des marées vertes et je vous annonce qu'elle le redira à l'occasion de la revoyure des 5 ans de son évaluation parce qu'on utilise mal l'argent public, c'est-à-dire qu'on ne donne pas un signal économique permettant aux agriculteurs de changer de trajectoire. Et puis, concernant la réglementation, les pouvoirs publics traînent les pieds pour venir mettre en œuvre de la réglementation coercitive et finalement efficace. Quoi.
On a l'impression, à vous entendre, que le dialogue avec les agriculteurs est vraiment au point mort.
Eh bien, paradoxalement, non. C'est-à-dire qu'à la fois, à l'échelle nationale, il semble ne pas y avoir de dialogue, ou en tout cas, il semble n'y avoir un dialogue qu'à sens unique. Et paradoxalement, en Bretagne, depuis deux ans, je vais l'estimer à 2 ans environ, on a des prémices d'un dialogue qui se renoue entre les chambres d'agriculture et Eau et Rivières de Bretagne. Il y a un dialogue parce que je crois qu'au bout d'un moment, même les tenants du syndicalisme majoritaire se rendent bien compte que il va falloir qu'on se parle parce qu'on ne peut pas se parler que devant les juges de la République.
Arnaud Pugerie, porte-parole de l'association Eau et Rivières de Bretagne, au micro de Nicolas Ballu. Le ciel restera orageux cet après-midi sur la plupart des régions, avec 9 départements de l'est du pays placés en vigilance orange, de l'Allier à la Drôme. Plus à l'ouest, le ciel alternera entre éclaircies et averses. Les pluies seront davantage marquées sur la Bretagne avant de se décaler ce soir sur la Normandie et les Pays de la Loire. Les températures ne dépasseront pas 24 degrés cet après-midi sur le quart nord-ouest. Comptez 24 à 28 sur les autres régions et jusqu'à 31 aux abords de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal, préparé ce midi avec Alison Wickrobeck.